BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
La tour de contrôle sur vos placements, ceux qui décollent et ceux qui pourraient au contraire vous faire atterrir. Bienvenue à tous, on vous alerte, oui, sur les potentiels à la hausse, à la baisse des différents titres et des différentes classes d'actifs. Nos experts, jusqu'à 18h, sont mobilisés. Etienne Braque aussi, depuis la tour Euronext. Rebonsoir Etienne, c'est vous qui, dans pile une demi-heure, nous ferez vivre cette clôture. Comment ça se présente ce soir ?
Du rouge avec un CAC 40 qui accélère à la baisse et qui est sur les plus bas niveaux de la séance, sous les 8000 points. Ça y est, 7990 points, c'est une baisse de 0,4%. Du rouge également à Wall Street avec surtout un indice Nasdaq qui perd 1,3%, Nvidia qui perd 2,2%. Vous avez Intel qui perd un peu plus de 3%. Des informations de presse qui évoquent que la Chine demande aux grands industriels chinois de ne plus avoir recours aux puces américaines à partir de 2027. Donc forcément, ça a un impact sur ces très belles valeurs qui ont connu un parcours stratosphérique ces dernières semaines. Ajouté à cela, un once d'or qui continue de grimper, qui gagne 3% désormais à 2442 $, l'or qui est sur des records historiques, plus 2% également pour le pétrole, avec des tensions au Moyen-Orient qui devraient arriver prochainement, nous dit les agences de presse. 82 $ désormais pour le baril de Brent, qui est sur des plus hauts d'octobre dernier. L'obligataire également, qui continue d'être recherché, 4,50 pour le 10 ans américain, et puis surtout le dollar, quel mouvement quand même. L'euro qui perd quasiment 2% sur l'ensemble de la semaine face au dollar, 1,09 quasiment en début de semaine, 1,0633 à l'instant, moins 0,9%. Et donc tout ça, ça pèse bien sûr sur le CAC 40, moins 0,4%. L'indice peut quand même dire merci à Total Energy, qui est l'une de ses principales pondérations, qui est sur des plus hauts historiques à 69 €, avec un gain de 2% aujourd'hui.
Effectivement, tiens, Total Energy qui profite de la hausse des cours du pétrole dans un contexte géopolitique tendu. Ces risques géopolitiques quand même sont... On ne parle pas de n'importe quoi là. Enfin, d'après le renseignement américain, quand même, on a l'Iran qui envisagerait une frappe imminente et massive sur Israël. Voilà, ce conflit, il existe depuis des années, des décennies. C'est un conflit, pas explicite, indirect. Là, on aurait peut-être un conflit direct. Et pourtant, le pétrole qui monte, c'est vrai, 91 $, est loin de ses plus hauts historiques. L'once d'or, en revanche, est sur des plus hauts. Alors, est-ce que le marché, les différentes classes d'actifs, price suffisamment le risque géopolitique ? On va poser la question à nos experts dans un instant dans le club. La data room aussi à suivre tout à l'heure, ce sera avant la clôture. Les stocks de cuivre sont en chute libre. On vous présentera ce chiffre très impressionnant. Est-ce un obstacle pour la transformation du monde, le déploiement des véhicules électriques, l'électrification globale? On a besoin de cuivre pour l'électricité. Sauf que les stocks chutent, la data room à partir de 17h25 et puis des idées de valeur bien sûr pour vos portefeuilles dès 17h35. On est à vos côtés, bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Mabrouk Chetouane et Sébastien Corchia, ce soir, sont nos coéquipiers du club. On va mesurer ce que le marché a dans le ventre et se demander si le marché price suffisamment le risque géopolitique désormais. Mabrouk Chetouane est responsable de la stratégie globale de marché pour Natixis IM. Bonsoir Mabrouk.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue. Sébastien Corchia aussi nous accompagne, directeur général de Cogefi Gestion. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue également. Si vous cherchez des idées de valeur, on évoquait tout à l'heure avec Alice Labout, TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs TSMC. Le groupe publiera la semaine prochaine ses résultats. Qu'en attendre ? Quel avenir pour TSMC ? On sait que Taïwan est au cœur aussi de ce conflit géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Si vous avez raté le direct à 16h20, le replay est disponible. Pour le retrouver, il suffit de télécharger l'application BFM Business et vous sélectionnez le replay de BFM Bourse. Est-ce que le marché est réaliste, là, Mabrouk ? Alors, c'est vrai, on a un CAC 40 qui recule un petit peu sous les 8000 cet après-midi. 8000, c'était il y a une heure, là on est dessous, 7991. Mais c'est une baisse qui reste assez limitée. Est-ce que le marché price suffisamment le risque géopolitique au cours actuel ?
Le risque géopolitique, il a cette particularité d'être, entre guillemets, ce qu'on peut qualifier d'un risque de queue de distribution pour les techniciens. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quelque chose qu'on ne sait pas, entre guillemets, valorisé, on ne sait pas à quel moment il va intervenir. C'est véritablement quelque chose d'extrêmement compliqué lorsque ça nous tombe dessus. Prends un exemple, la guerre en Ukraine, le marché se réveille avec effectivement une invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce genre d'événements, effectivement, sont encore une fois très très difficiles à prévoir. Et c'est pour ça que le marché, aujourd'hui, est en quelque sorte tiraillé entre plusieurs facteurs. Il y a ces facteurs négatifs, vous le citiez, donc le facteur politique qui aujourd'hui prend une dimension, on va dire, de plus en plus importante à travers différentes variables que vous avez citées, le prix du pétrole, le prix de l'or, qui monte et qui sont le reflet justement d'une tension possible et palpable. Et en même temps, vous avez, on le voyait durant le résumé qui a été fait, des résultats d'entreprise qui sont là aussi pour certaines très très bons, pour d'autres un peu plus décevants. Donc le marché aujourd'hui est en train de peser en quelque sorte, qu'est-ce qui doit l'emporter entre les fondamentaux microéconomiques qui vont prendre le dessus finalement dans les jours à venir, puisqu'on va avoir donc la saison de publication des résultats, et ce risque politique qui deviendra effectivement problématique s'il devait se manifester, se concrétiser. Encore une fois, là on est dans la rumeur, dans oui, effectivement le, les scénarios en quelque sorte d'une attaque imminente. Vous le disiez, c'est un conflit larvé, c'est-à-dire qu'on vit qu'il n'a jamais été direct, on n'a jamais eu de confrontation directe entre ces deux pays, mais néanmoins la probabilité existe, elle est non nulle, et le marché aujourd'hui fait, entre guillemets, fi, en tout cas le marché action fait fi de ce qui se passe. En revanche, le prix de l'or, le prix du pétrole réagissent, et j'aimerais juste apporter une petite précision sur le prix du pétrole. Il ne réagit pas seulement, enfin c'est pas aujourd'hui, enfin le prix du pétrole n'a pas seulement monté, n'a pas augmenté depuis seulement cette annonce, ou alors cette possible confrontation. Ça fait un petit bout de temps qu'il monte déjà. Il faut rappeler aussi certains fondamentaux qui sont à mon sens extrêmement importants. Vous avez l'offre, entre guillemets, l'offre de pétrole qui baisse. On avait les Américains qui parvenaient finalement à combler, entre guillemets, l'absence des Saoudiens. Là, aujourd'hui, les Américains ne peuvent plus. C'est-à-dire qu'en gros, la production de pétrole américain baisse. Et donc, in fine, face à une demande qui, bon an mal an, se tient, vous avez mécaniquement des tensions qui se manifestent assez fortement sur le prix du pétrole. Ce qui, bien sûr, n'aura échappé à personne. Ça relance, bien évidemment, la thématique de l'inflation. On le voit déjà aux États-Unis.
Mais du coup, vous relativisez cette hausse du pétrole en disant, voilà, il y a cette problématique effectivement d'offre-demande, hein, ça c'est la base. On aurait une véritable crainte du marché sur un conflit ouvert entre Iran et Israël. Le niveau serait beaucoup plus élevé.
On ne serait pas à ce niveau-là. Je rappelle juste, hein, quand la manifestation du conflit, c'est-à-dire qu'en gros l'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu lieu, on était bien au-delà, effectivement, des $100 le baril. On a tutoyé les 120. Donc, encore une fois, si véritablement on avait un conflit très fort qui se manifestait, enfin une confrontation directe, et j'aimerais juste rappeler encore une statistique, la production de pétrole d'Iran, en Iran, est marginale à l'échelle de la production mondiale. Alors, bien évidemment, c'est pas la production directe qui va être concernée, mais ça va être les conséquences, les effets en cascade, comment vont réagir les autres pays de producteurs de pétrole. Mais là, encore une fois, si on regarde juste les belligérants qui seraient potentiellement entre guillemets, impliqués dans une confrontation directe, là encore, on parle de 3% de la production mondiale, c'est-à-dire pas grand-chose.
Je vous vois dodeliner un peu de la tête, Sébastien. Votre regard à vous sur le pétrole qui monte, c'est vrai, bien sûr. 91$, mais le record absolu du pétrole, il est beaucoup plus élevé que ça. On en est très, très loin. Alors, du coup, on peut se rassurer ou on doit quand même s'inquiéter pour l'inflation de cette hausse des cours du pétrole en se disant que non seulement ça monte en dollars, mais en plus en euros, c'est pire puisque l'euro recule face au dollar. Donc là, pour la zone euro, c'est quand même de plus en plus compliqué. Ouais. Cette hausse du pétrole en euros, elle est encore plus douloureuse.
Oui, d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse avant de répondre. Si on devait baisser les taux en Europe avant les Américains, naturellement ça ferait baisser encore plus l'euro, ce qui est le cas d'ailleurs là, et donc ça renchérirait les prix du pétrole, ce qui fait qu'à la pompe, le consommateur il y verrait que du feu, ce serait même un peu l'inverse. Parenthèse fermée. Non, pourquoi je tanguais un peu de la tête, parce que même si Mabrouk a raison sur le pourcentage effectivement de la place de l'Iran versus d'autres pays comme les États-Unis, le Venezuela ou plein d'autres gens comme ça qui ont des réserves très importantes, il n'empêche qu'il y a une zone géographique qui est importante, c'est le détroit d'Ormuz. Et par le détroit d'Ormuz passe quand même beaucoup plus de pétrole que le seul pétrole iranien, et que on se souvient dans les années 70-80 au moment où il y avait des tensions, même après, que le blocage du détroit d'Ormuz, zone hautement stratégique, pourrait propulser le pétrole à des niveaux bien plus hauts, sans compter le reste des biens et services, puisqu'on a déjà des problématiques en face avec la mer Rouge et les Houthis. Donc imaginez bien que cette zone, elle serait dans une un peu à feu et à sang de manière beaucoup plus large que le simple Iran, sans compter que c'est la réplique amène la réplique, etc., etc. On va pas faire de la géopolitique ici, mais ce dossier, pour répondre à votre toute première question, j'ai l'impression que la bourse, les marchés l'ont superbement ignoré, en fait, en se disant quoi ? En se disant Israël économiquement aucun intérêt, à l'échelle mondiale. Hein. La Palestine, les territoires palestiniens, malheureusement, c'est une zone qui économiquement est pas productrice de biens. Donc le marché ne s'y est pas intéressé. Et là, il se réveille un peu avec la radio, entre guillemets, se pose la question. Alors des gens plus avertis ont commencé à se hedger donc se couvrir il y a quelques semaines à travers le pétrole, et c'était très clairement dit d'ailleurs que le pétrole était peut-être le meilleur hedge contre un problème. L'or aussi, mais l'or aussi reflétait à mon sens plutôt les dettes qui partout dans le monde montent, mais bon, ça peut marcher.
On va en parler de l'or dans un instant. Nouveau record.
Après, mais par contre, ce marché n'est pas prêt parce qu'il est au plus haut, parce que sa volatilité, qui est l'assurance, personne n'en achète véritablement. À la rigueur, les gens continuent même d'en vendre. Donc, il pourrait être pris dans une. Alors, non pas un Black Swan, parce que Black Swan, on sait que quand ça arrive, c'est que personne n'en a parlé, mais il pourrait être pris quand même dans un petit effet de surprise à un moment où il est quand même cher.
Total Energy, c'est la plus forte hausse ce soir du CAC 40. C'est le bon plan. Enfin, pardon, hein, je suis désolé, mais d'un point de vue de l'investissement boursier, voilà, il y a un méga trend encore à venir sur cette thématique matière première, pétrole, un groupe comme Total Energy. Qu'est-ce qu'on se dit là-dessus pour, si la, pour les investisseurs qui cherchent des idées concrètes pour la suite, pour, dans le monde très incertain qu'on est en train de décrire, savoir comment le marché pourrait choisir ses gagnants et ses perdants, on va dire.
Je vais faire un peu mon vieux fondamentaliste, entre guillemets, mais si on considère que de tout toutes les manières, l'offre descend avec une production américaine qui baisse, une production effectivement saoudienne qui ne va pas remonter, que la demande, elle, ne va pas forcément plonger, parce que bon, les États-Unis, on a discuté à plusieurs reprises sur ce plateau, ne vont pas connaître de récession, que ça va bien tourner, etc. Enfin, que la demande mondiale, finalement, reste là. Bon, avec des tensions politiques par ailleurs, oui, le prix du pétrole ne va pas baisser, et à ces niveaux-là de prix du baril, vous avez donc des entreprises comme Total qui, bien évidemment, continueront d'avoir des bénéfices qui seront en augmentation. Donc, c'est salué par le marché, c'est tout simplement une valorisation de la situation actuelle sur les prix du pétrole.
Le marché manque-t-il d'un... En tout cas, il accélère, il fonce comme un bolide vers la clôture. Dernière ligne droite, le CAC perd 0,4% à l'approche de cette clôture sous les 8000 points, 7994. Total Energy, on le disait donc, profite en tout cas de cette situation, la hausse des cours du pétrole en tête du CAC, le titre. On a aussi Société Générale qui annonce de nouvelles sessions, cette fois au Maroc, pour plus de 700 millions d'euros. C'est la grande braderie en ce moment, la Société Générale qui multiplie les sessions. Le titre gagne 1,6%, puis en repli, Stellantis qui recule de 3,6%. Noté aux États-Unis, Apple fait mieux que le reste du marché, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. En fait, depuis hier, ce titre Apple surperforme. Hier, il a pris 4%. Aujourd'hui, il gagne 0,5%, alors que Wall Street recule. Parce que d'après Bloomberg, les prochains Mac intégreront beaucoup plus d'intelligence artificielle. Et les prochains produits d'Apple en général. Ça, le marché l'achète évidemment. Et Apple, qui souffrait depuis le début de l'année, là, retrouve un petit peu de surperformance. On va demander d'ailleurs à nos experts si Apple pourrait opérer un vrai comeback après un début d'année un petit peu décevant. Mabrouk chez toi nous accompagne. Sébastien Corchia également. L'once d'or, on n'en a pas parlé, messieurs. L'once d'or, $2,440. Le CAC fait rien là aujourd'hui. Pas la peine de s'attarder sur le CAC 40, c'est sur les autres actifs qui se passent des choses. L'once d'or envoie des signaux. Pareil, c'est la situation géopolitique ou c'est plutôt le marché de la dette qui inquiète les investisseurs? C'est la Chine qui essaie peut-être de se dédollariser, qui achète de l'or? Comment est-ce qu'on interprète ce nouveau record, $2,440, Mabrouk?
La diversification des réserves de change des banques centrales, c'est une vieille thématique qui revient régulièrement. Et donc, plusieurs banques centrales opèrent à ce mouvement, effectivement, d'achat d'or. Donc, c'est-à-dire la banque russe, effectivement, le fait de manière assez intensive. La banque centrale de la PBOC également, donc la banque centrale chinoise le fait également. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et puis encore une fois, le contexte sans doute, enfin les vieux réflexes reviennent en quelque sorte. On a toujours cette idée que l'or constitue une valeur refuge lorsqu'on a des tensions, un déficit de visibilité. Et on a encore une fois, je précise juste une chose, c'est que le prix de l'or augmente maintenant depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc c'est pas quelque chose, entre guillemets, de nouveau, ces tensions politiques qui se raffermissent et qui deviennent de plus en plus tangibles, aujourd'hui n'expliquent pas à elles seules, entre guillemets, cette croissance du prix de l'or. Donc on a aujourd'hui fondamentalement un prix de l'or un actif qui est publicité par les investisseurs, tout simplement parce que moins de visibilité, et puis surtout, on a aussi ces banques centrales qui soufflent le chaud et le froid en quelque sorte, puisque on avait finalement au début d'année des banques centrales qui annonçaient que qu'on allait peut-être avoir plusieurs baisses de taux. Le marché qui s'était engouffré dans cette brèche.
On pensait qu'on allait vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Et puis finalement, il y aura peut-être beaucoup d'amour, mais un peu moins d'eau fraîche. En tout cas,
un peu moins d'amour en 2022 pour les porteurs obligataires, c'était pas trop d'amour. Hein. C'était
non, mais pour cette année, là. Bâton. On pensait que cette année, on vivrait d'amour et d'eau fraîche. Quoi. Les taux commenceraient à baisser. Non, on vivra d'amour, évidemment. On vit que d'amour, tous. Mais il y aura moins de baisses de taux qu'attendu.
Je vais paraphraser mon ami Florian. Effectivement, le marché fait un peu une crise d'adolescence, en quelque sorte, puisque quelque part, finalement, on avait 6 baisses de taux anticipées cette année. Donc, pour le marché. Donc là, on revient à 3. On est revenu finalement à 3. Là, finalement, les 3 se transforment en moins de 3. Donc,
moins de 2 même pour la fin.
Moins de 2 pour effectivement, quand on regarde certaines statistiques, enfin, quand on regarde effectivement les anticipations de marché, ça bouge effectivement beaucoup au gré des stats macroéconomiques. Mais néanmoins, donc, tout ce cosmos-là, finalement, de déficit de visibilité, d'un changement peut-être radical finalement sur la politique monétaire américaine, dont il ne faut pas oublier que ce que j'appelle la force gravitationnelle en fait des marchés américains va quand même poser beaucoup de problèmes finalement à la BCE par ailleurs. Et globalement, soit la BCE doit en faire beaucoup plus pour pouvoir effectivement contrer l'augmentation possible des taux entre guillemets longs américains qui va contaminer finalement les taux longs européens, ou alors finalement la BCE va devoir effectivement renoncer elle aussi puisque les conditions ne le favorisent pas.
Oui. Combien de baisses de taux cette année de la Fed ? Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il n'y en aura peut-être même pas deux, moins de deux, Sébastien, désormais.
Alors, je vais juste vous répondre à un truc sur l'or, quand même, qui est intéressant. C'est qui, si vous me permettez, qui achète l'or ? Les banques centrales, pas les investisseurs, parce que quand vous regardez les ETF sur l'or, ça baisse. En fait, les gens qui faisaient de l'ETF sur l'or font de l'ETF sur le Bitcoin. Donc, c'est pas trop les particuliers. Par contre, ce sont les particuliers chinois qui n'achètent pas leurs actions, qui se sont fait rincer sur leur immobilier et qui se réfugient sur l'or. C'est une grosse demande et la demande très forte de la Chine. Comme par hasard, avant que l'Ukraine, il y ait le conflit russo-ukrainien, la Russie avait fait un énorme stock d'or. C'est aussi une protection contre une menace de rétorsion américaine. C'est aussi parce qu'ils ont une vraie volonté d'avoir une monnaie, c'est ce qui leur manque pour devenir une superpuissance, une monnaie à échelle mondiale, et il faut qu'il y ait des réserves, et si possible en or. Parenthèse fermée, pour qu'il y ait les baisses de taux américaines.
Combien ? Vous en voyez combien ?
J'ai jamais cru au 6-7. Je croyais même que c'était un fantasme des marchés. Une crise d'adolescence, j'aime beaucoup l'expression.
Pas de moi.
Effectivement, mais elle était très bonne.
Que l'idée, c'est que le marché, en variant, en ajustant aussi violemment ses anticipations de baisse de taux,
d'ailleurs, il a masqué
son erreur, est en train de péter un câble, en quelque sorte. C'est une crise d'adolescence dans le sens où le marché fait du grand n'importe quoi dans ses anticipations.
Oui, il a fait du grand n'importe quoi. Et puis, pour cacher son erreur d'anticipation, il a acheté massivement des valeurs de techno en disant, on ne regarde plus la macro. On regarde que les micros, puis pendant ce temps-là, il a corrigé ses anticipations. Mais ces anticipations, aujourd'hui, elles sont à l'inverse, puisque quand vous regardez les Fed Funds, maintenant, les Fed Funds traduisent à hauteur que 15% des investisseurs penseraient qu'il n'y aurait plus du tout de baisse des taux. 15%, c'est pas beaucoup, mais c'est en même temps beaucoup par rapport à où on était il y a pas longtemps. Donc, est-ce que ça sera 2? 2 me paraît être un chiffre pas mal en Europe. 2 fois 0,25, histoire de dire, un peu comme dit Villeroy de Gallo, il faut faire quelque chose pour pas être dans l'excès sans non plus prendre un virage où il faudrait retourner si d'aventure l'inflation montait. Donc, 2 en Europe, c'est pas mal. 2 aux États-Unis, ça va être très très serré. Je pense qu'ils ont raté un coche qu'ils avaient peut-être pour en faire une au mois de mars. Avril, ils l'ont raté, ils sont coincés avec les élections, ils sont coincés avec plein de choses, et alors il ne faudrait pas qu'il y ait un événement géopolitique, peut-être ça rabattra les cartes, mais avec cette énergie qui repart, ce pétrole qui repart, ça va être extrêmement compliqué. Je pense que normalement ils ne le font jamais avant les élections, mais pour le coup, Monsieur Powell, il est légèrement conflicté quand même pour ces élections. C'est un peu son poste aussi qui va jouer. Donc, il va peut-être vouloir quand même aider un peu le candidat démocrate à avoir des voix, quoi.
Bien heureux celui qui sait, qui voit, qui entrevoit le chemin monétaire à venir. Surtout celui de la Fed. Pour le coup, celui de la BCE est peut-être un peu plus clair et la BCE devrait sans doute. Non, ça, pas vous. Vous avez l'air de pas être dans. C'est pas très clair pour la BCE non plus, Mabrouk.
C'est pas si clair que ça, honnêtement.
Mois de juin, il semble que l'hypothèse est montée en puissance après la conférence d'hier, non ?
Enfin, la conférence d'hier, globalement, elle n'a rien dit. Donc ça, il faut être clair. C'était quand même d'un ennui quand même assez mortifère. Et globalement, finalement, elle n'a pas insisté. Enfin, elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de calendrier, etc., sur les baisses de taux. Mais encore une fois, si la BCE venait à baisser ses taux d'intérêt directeurs en amont finalement de ce qu'on pourrait faire la Fed, ça a été très bien dit, on aurait une réaction du change qui serait immédiate, qui est déjà en train de plonger en quelque sorte et qui renchérirait par ailleurs dans un contexte de prix du pétrole qui s'augmente, qui augmente pardon, l'inflation importée. Et donc c'est évidemment ce que veut éviter la BCE. Mais pas de chance, effectivement, ça joue pas dans son sens. Donc, et même si la BCE ne dira jamais effectivement que le change constitue effectivement un outil de politique monétaire et un objectif, elle est néanmoins contrainte de regarder ce point-là. Et enfin, je veux dire juste votre attention sur un point.
Il y a Étienne Mabrouk qui vous écoute depuis la tour Euronext et qui adore, il vous trouve super cash ce soir. Il dit, il est top. Voilà.
Ah bon?
Oui, bah voilà. Non, mais on retrouvera dans un instant, Étienne.
D'accord, très bien. Non, mais le point par ailleurs, c'est que je l'avais dit sur ce plateau, notamment lors de la dernière data room que j'ai fait, auquel j'ai participé, on a quand même des augmentations de salaires qui vont avoir lieu ou qui ont déjà lieu finalement en Europe. Et la difficulté qu'on va avoir, c'est de dire, est-ce que les entreprises vont absorber ces augmentations de salaire ou est-ce qu'elles vont répercuter finalement ces augmentations dans les prix?
Oui.
Aujourd'hui, on ne sait pas. D'après Christine Lagarde, encore une fois, elle fait l'hypothèse, c'est l'hypothèse effectivement du board de la BCE, que ces augmentations de prix seront absorbées dans les marges des entreprises. J'ai beaucoup de mal à souscrire encore une fois à cette hypothèse. Et globalement, je ne serais pas surpris de voir l'inflation repartir comme aux États-Unis.
17h26, Votre plus grand fan nous appelle depuis la tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. Il nous écoute attentivement, Étienne Braque. Eh oui, il est cash, effectivement, Mabrouk, Étienne. Ça, vous aimez, Étienne, hein, quand nos intervenants sont cash, et c'est effectivement le cas ce soir dans ce club.
En fait, Mabrouk est le seul intervenant depuis hier qui dit tout haut ce que pense tout le monde tout bas. Donc voilà, ça me fait plaisir d'entendre qu'en effet, on a... Bah, par rapport au fait que Christine Lagarde a rien dit hier et que cette réunion était...
Je tiens juste à apporter une précision.
En tout cas, on a un CAC 40 qui...
Habituellement, je prends sa défense puisque tout le monde lui tombe dessus. Mais là, cette fois-ci, je dois reconnaître que c'était quand même un petit peu ennuyeux.
C'est joliment dit. Étienne. Oui, on l'a tous pensé, c'est vrai, c'était un peu ennuyeux. Mais on l'a vécu intensément, l'ennui était profond. Allez, dans un instant, la clôture. Ce sera dans 8 minutes, cette clôture des marchés. Étienne, comment ça se présente pour le CAC ce soir?
Bah écoutez, vous avez une nouvelle séance de consolidation à la Bourse de Paris, mais néanmoins, franchement, au vu du contexte et au vu de tout ce dont vous parlez depuis plus de 20 minutes, moins 0,3%, ça va, c'est pas catastrophique. 7 996 points pour l'indice parisien, qui peut dire merci à Total Energy qui gagne 1,9% grâce au cours du pétrole qui gagne 2%, 91$ sur des plus hauts de novembre dernier. L'euro qui est toujours aussi faible, hein, 1,0640 face au dollar, l'obligataire qui continue de se détendre. Et puis, à noter, un marché qui est un petit peu prudent avant les résultats du luxe. Hein. La semaine prochaine, ça sera peut-être le rebond ou peut-être eh bien, des résultats qui vont enfoncer le clou, mais LVMH perd 1,5%, 778€. Mercredi, vous allez avoir ASML qui va publier ses résultats. Là aussi, c'est une très grosse pondération du Stoxx 50. Et puis ensuite, jeudi, L'Oréal. Donc, soyez bien prêts la semaine prochaine avec les résultats d'entreprise. Soit ça va accélérer à la baisse la tendance ou soit ça sera peut-être le rebond pour terminer au-delà des 8000 points. 7998 à l'instant.
Effectivement. Alors, les publications, ça va être le coup d'envoi et ça a démarré aujourd'hui aux États-Unis. C'est une question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse. Vous pouvez vous y abonner, notre fil LinkedIn. À vos yeux, les entreprises à l'occasion des publications là vont-elles briller? Brilleront-elles autant que lors des publications précédentes? Oui ou non? Vous êtes nombreux à répondre, nous laisser vos arguments en commentaire sur les différents réseaux sociaux. Oui ou non, Sébastien? Rapidement, est-ce que les entreprises vont parvenir à surprendre aussi agréablement que les trimestres précédents là?
Alors, je reprendrai ce qu'a dit Étienne et qui est juste, c'est-à-dire qu'il y a des publications qui sont plus importantes que d'autres parce qu'il y a toujours des publications qui brillent et d'autres qui brillent pas. Pour le coup, celles des gros poids sont importantes et celles du luxe parce qu'on a eu quand même des messages qui ont été envoyés par LVMH ou d'autres en disant attention, attention, cette tendance qui était quasi continue de croissance très forte, c'est peut-être derrière nous. Ces messages sont passés dans le marché, on le voit avec des titres qui ont un petit peu plus de mal. Et vous avez d'ailleurs des titres même qui ont beaucoup baissé. Je pense à Kering, mais je pense à Hugo Boss ou c'est à 2-3 titres aux États-Unis ou même de luxe aussi. Donc on sent que c'est un thème qui commence à être un peu vraiment usé, mais vu les poids dans les indices et notamment de LVMH, il peut y avoir de l'arbitrage. Alors justement, vous disiez l'intérêt de Total, c'est aussi peut-être que c'est intéressant de connaître cette géographie des indices et de se rappeler que si LVMH est le plus gros poids de l'indice, celui qui est juste derrière, c'est Total, et que les gens n'en avaient pas beaucoup parce que c'était beaucoup moins sexy d'acheter de l'essence que d'acheter un sac à main. Et pour le coup, ils arbitrent un peu les sacs à main pour l'essence, on va le dire comme ça.
Donc, quand vous êtes parisien,
c'est... De pondération. Vous voyez,
quand vous êtes parisien,
c'est encore moins...
Ça parle.
Ouais. Allez, on va rentrer tout de suite dans la Data Room, 17h29. C'est votre dose de liquidité. Votre dose de lucidité. Non, je l'ai très mal prononcé, on va la refaire. Donc, votre dose de lucidité, chaque soir, c'est juste avant la clôture. Un chiffre, une data peut parfois en dire davantage qu'un très long discours. Sébastien et Mabrouk, êtes-vous prêts ?
Oui.
C'est ici et maintenant que tout se joue. Votre data, Mabrouk, ce soir, votre incroyable chiffre, c'est 25%.
25%, c'est effectivement la baisse constatée sur les stocks effectivement de cuivre. Alors Bruno Le Maire en a parlé durant son intervention ce matin, notamment sur la question des métaux. Le cuivre, c'est essentiel dans la partie électrification. On a une demande croissante et aujourd'hui finalement, quand on regarde le cuivre, on l'interprète toujours comme un proxy finalement de la reprise chinoise. Mais en fait, en réalité, ce qui explique cette consommation grandissante de cuivre aujourd'hui, c'est pas tant le retour de la Chine, puisque la Chine n'a pas encore fait son retour à mon sens, c'est surtout en fait un nouvel acteur qui s'est finalement, qui a pointé le bout de son nez dans le marché du cuivre, c'est l'IA. Donc l'IA aujourd'hui est en train de consommer, les besoins effectivement de l'IA pour justement, pour qu'elle fonctionne, sont assez chronophages, assez demandeurs en cuivre. Mmh. Et donc finalement, si on considère que en plus de toute l'électrification dont on doit effectivement, que l'on doit effectivement mettre en place, on doit par ailleurs développer l'intelligence artificielle, on va avoir une demande de cuivre qui va littéralement exploser. Et finalement, aujourd'hui, on fait face à une contrainte. Je prends toujours effectivement mon point, offre-demande. L'offre finalement de cuivre, elle devient de plus en plus complexe, de plus en plus difficile finalement à atteindre, tout simplement parce que il faut aller très très loin pour trouver finalement du cuivre, et de plus en plus profond, et les conditions effectivement d'extraction du cuivre sont de plus en plus difficiles face à une demande qui ne fait que croître. Donc aujourd'hui, vous avez un prix du cuivre qui ne serait-ce que là sur le mois d'avril a augmenté de 10%. On a finalement aujourd'hui des tensions qui peuvent effectivement être expliquées pas seulement par la Chine, mais par des facteurs aujourd'hui qui sont totalement exogènes.
Et donc ce chiffre incroyable, les stocks de cuivre ont diminué depuis le début de l'année, là, en 3 mois.
D'ailleurs, tout date, effectivement.
Oui, de 25%.
C'est ça.
Ça veut dire qu'on aura plus de mal finalement, on risque de manquer de stock pour parvenir à électrifier comme on le souhaitait par exemple les véhicules électriques. On a besoin d'électrifier aussi pour les véhicules électriques. Qu'on a besoin de plus d'électricité, pas que pour l'IA.
Mais on a besoin de cuivre pour tout, en fait. Puisque oui. Globalement, si la décarbonation...
Sauf que les réserves baissent, enfin en tout cas, les stocks de cuivre baissent. Est-ce que ça risque de poser un problème ?
Les stocks de cuivre baissent, et puis la production, finalement, n'arrivera pas à suivre la demande. Donc il va falloir, effectivement, se poser véritablement la question, comment on fait pour pouvoir... mais en tout cas, c'est-à-dire...
Et c'est inflationniste, en plus.
Oui, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, ça va arriver plus tard, mais effectivement, c'est important de trouver des solutions qui vont nous permettre de pouvoir, en tout cas, rencontrer nos objectifs de décarbonation. C'est essentiel.
Mabrouk a mis les points sur les i, c'était votre incroyable data, la chute vertigineuse des stocks de cuivre, moins 25% depuis le 1er janvier. Votre incroyable data... Votre incroyable data, Sébastien. Et vous prenez Mabrouk sur son terrain. Vous le combattez sur cet univers des matières premières. Votre chiffre, $14,723.
Oui, je pourrais rajouter moins 80% cette fois-ci. Moins 80%, c'est la variation du prix de la tonne de lithium. De lithium de fin 2022, où on était à peu près à $85,000 et on est maintenant aux alentours de 15 000. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce lithium qui était tellement recherché? Parce que effectivement, on parle d'électrification, on parle des batteries, on parle de l'automobile. Donc, naturellement, vous avez eu un engouement très très fort, à la fois une demande réelle pour ces premières batteries et voitures électriques, et puis peut-être une suranticipation des choses. Et c'est toujours intéressant lorsqu'on parle des matières premières, c'est relativement simple. Il faut regarder la demande, l'offre. Et souvent, le problème vient un petit peu des deux côtés. Donc, sur-demande au début. Et puis après, à l'inverse, on a eu, comme les cours étaient élevés, ça a attiré naturellement tout un tas de capitaux pour créer, pour ouvrir de nouvelles mines, voire en rouvrir qui n'étaient pas rentables. Et donc, l'offre est arrivée. Et puis, les Chinois, pour parler d'eux là encore, les Chinois avaient des stocks qui étaient extrêmement importants. Ils se sont mis à les mettre sur le marché à un moment où eux-mêmes avaient du mal à vendre un peu leur voiture électrique et à un moment où nous, en Europe, et je pense notamment aux Allemands, qui tout d'un coup ont enlevé, pour des questions budgétaires, tout un tas d'aides pour les véhicules électriques, ça c'est plus proche de nous, mais il y en a eu moins pour des questions budgétaires aussi en France, en Europe, et bien une demande qui s'est effondrée. Et donc aujourd'hui, offre-demande complètement déséquilibrée, il n'y a pas que le lithium, tous les produits qui vont de pair pour la fabrication de batteries, je pense au cobalt et au nickel, sont exactement dans la même configuration. Oui.
Plus bas historique.
Sur les plus bas, très fort. Ouais.
Et sur le lithium, effectivement, particulièrement, 14 723 dollars. Impressionnante data ce soir concernant l'univers des matières premières. Ouais, c'est l'un des univers qui reflète le mieux ce monde qui se construit, mais qui, par à coup, effectivement, aussi entraîne des déséquilibres. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Mabrouk Chetouane, Natixis IM et Sébastien Corchia pour Cogefi Gestion étaient nos coéquipiers du club. Bonne soirée, bon week-end. Merci. Je crois qu'on peut dire que vous êtes en week-end à présent. Pas le marché. Il lui reste... Ah bah si, le marché, puisque ça va être la clôture, là, dans un instant. Voilà, presque en week-end, le CAC 40, dans un instant la clôture, on appellera Étienne Braque à la Tour Euronext. À tout de suite.
À suivre dans BFM Bourse, la clôture à Euronext. BFM Business, BFM Bourse, la clôture à Euronext.
Étienne Braque avec nous depuis la salle de contrôle du CAC, la Tour Euronext. Rebonsoir, Étienne, dernière clôture de la semaine. Comment termine-t-on cette semaine boursière?
Et de 4, quatrième séance dans le rouge pour la Bourse de Paris qui perd 0,16% ce soir à la clôture et arrive à se maintenir au-delà des 8000 points. 8010 points ce soir au fixing. Du rouge également du côté de Wall Street. Le Nasdaq qui avait gagné 1,6 hier perd 1%. Le Dow Jones perd 0,8%, pénalisé notamment par le secteur bancaire et puis notamment JP Morgan qui perd 5% avec des prévisions qui douchent un petit peu les attentes. Il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment de bonnes nouvelles aujourd'hui sur les marchés. Secteur bancaire sous les attentes aux États-Unis, des nouvelles qui évoquent que la Chine souhaite interdire les puces américaines dès 2027 pour les géants chinois, donc ça fait baisser Intel de plus de 3%. Nvidia est en légère baisse également aujourd'hui. Des tensions visiblement encore à venir au Moyen-Orient. Donc suite à cela, vous avez le pétrole qui est sur des plus hauts d'octobre dernier à 91,50$. C'est une hausse de 2%. Et puis l'once d'or également qui se distingue très clairement ce soir à 2414$. C'est un plus haut historique grâce à une hausse de 1,7%. Dans ce contexte, vous avez le dollar qui est particulièrement recherché avec un euro dollar qui continue de baisser 1,0644. Il perd quasiment 2% sur l'ensemble de la semaine. Une variation hebdomadaire de ce type, ce n'est pas arrivé depuis 2022. Alors aujourd'hui, la Bourse de Paris peut dire merci à Total Energy qui arrive quand même à soutenir cette tendance. Plus 2% pour Total qui est sur un plus haut historique au-delà des 69€. Le contexte géopolitique profite également à Thales, plus 1,6% à 158€, quand Engie de son côté prend 1,7 à 15,88. À noter le secteur du luxe, ce qui sous-performe très clairement ce soir avant la publication des ventes de LVMH mardi soir. Moins 1,2% pour la valeur à 781. Vous avez Hermès qui perd 1,3 à 263. Quand Kering, de son côté, abandonne un peu plus de 1,3%. Et puis, à noter un titre qui décroche très lourdement ce soir en Europe, c'est Varta, le spécialiste des piles, des batteries. Moins 30% sur des plus bas historiques, alors que la restructuration à venir s'avère très compliquée pour ce spécialiste donc des batteries et des piles. Le CAC 40 donc, qui clôture en baisse ce soir, moins 0,16%, mais au-delà des 8000 points, 8010 points. Et puis sur l'ensemble de la semaine, c'est du rouge également, avec un indice parisien qui cède un peu plus de 0,8% en données hebdomadaires. C'est assez simple. Par rapport à vendredi dernier, il a perdu 70 points, le CAC.
Ah oui, effectivement. Gilles Santacreux, d'ailleurs, est avec nous, boursicoté.com, pour tirer des enseignements de cette semaine, cette clôture boursière, surtout de la semaine. Rebonsoir, Gilles. Voilà, quels signaux le marché aura-t-il envoyé cette semaine pour la suite ?
D'une phase de consolidation, mais sans grande conviction. Alors tout à l'heure, je vous indiquais la zone des 8024 points. Il s'avère qu'on clôture juste sous cette zone. On a un point bas qui est très proche des 7975, qui est la prochaine zone de support à surveiller. Bon, va falloir un petit peu observer ce qui se passe, puisque là, depuis une heure, on a... Alors moi, je regarde le WTI. On a un WTI qui a perdu 1$. Quand on sait que le prix du pétrole est une composante, justement, d'une possible baisse des taux de la Banque Centrale Européenne par le biais de l'inflation, eh bien, si l'évolution continuait à la clôture à 22h du côté US, eh bien, on pourrait avoir un indice qui, par le biais de la baisse de l'euro et justement de la baisse de ces matières premières, pourrait rebondir à partir de lundi. Or, évidemment, événement imprévu. Globalement, bon, on a une phase de consolidation, on a des volumes en légère augmentation. Il va falloir faire attention, on va surveiller les futurs jusqu'à 22h. Pour l'instant, donc, phase de de consolidation, mais pas avec une grosse alerte non plus. Sous 7975, les choses pourraient se dégrader.
Vous nous accompagnez, Gilles, jusqu'à 18h. On va tout de suite refaire la séance. Alors, on sait que le marché a une main, la fameuse main invisible du marché. Le marché a un ventre. Après, le marché a beaucoup de potentiel dans le ventre. Nos experts nous le disent. Encore faut-il bien choisir ses valeurs. Mais le marché a-t-il une âme ? Cette question, on va la poser à nos experts. On est à vos côtés. On va répondre sans tabou et jusqu'à 18h. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Un ventre, une main, mais a-t-il une âme, le marché ? Cette question, on va vous la poser à vous, Franklin. Franklin Pichard, bonsoir.
Bonsoir, Guillaume.
Pour Kipling Finance, vous êtes prêt, hein ? Vous avez préparé une réponse. Dans quelques minutes, on vous posera la question. Benjamin Rousseau aussi nous accompagne, gérant pour Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir, Benjamin.
Bonsoir, Guillaume.
Bienvenue également. Et puis donc, Gilles Santacreux depuis boursicoté.com. D'abord, le marché global, on entre dans la phase de publication des résultats. Ce sera surtout la semaine prochaine avec LVMH qui va ouvrir le bal, ce sera mardi. Est-ce que le marché arrive sur cette zone de publication, cette phase de publication fragilisée ? Est-ce que vous le sentez désormais plus fragile, le marché ? Franklin.
Oh oui, certainement. Je pense qu'il nous laissait un peu perplexes quand il caracolait encore jusqu'à il y a une dizaine de jours. Typiquement, la correction qu'Étienne a décrite tout à l'heure, depuis le début de la semaine, me semble tout à fait normale, salutaire. On avait tellement tendu les cours qu'aujourd'hui, on comprend qu'à la veille de cette saison des publications, avec des indicateurs des banquiers centraux qui sont mitigés, en tout cas du côté des États-Unis, eh bien oui, on comprend que les marchés corrigent aujourd'hui, c'est vrai.
Bon, on a quand même une banque en tête, c'est pas tous les jours. Société Générale, en plus, c'est encore moins tous les jours. Le titre signe la plus forte hausse du CAC, quand même, faut le souligner, plus 2,1%. C'est un peu la grande braderie, là, du côté de la Société Générale. Ils ont annoncé un projet de cession hier pour plus d'1 milliard d'euros, et encore un aujourd'hui pour plus de 700 millions d'euros. Pourquoi ces cessions, et est-ce que ça transforme le profil du groupe ou son potentiel en bourse, Franklin ?
Oui, si je peux me permettre, vous avez posé cette même question hier et j'étais, j'écoutais la radio et je bondissais en me disant mais il faut peut-être être plus clair. Je crois, moi, ce qu'on se raconte dans les salles de marché, c'est clairement le marché salue la nouvelle direction, la nouvelle gouvernance. Au-delà des cessions, les cessions sont la concrétisation de ce qu'on a attendu pendant des années qui n'a pas été fait par Frédéric Oudéa. Aujourd'hui, il y a un autre profil de la valeur. Aujourd'hui, les marchés, les investisseurs considèrent que c'est une nouvelle histoire qui s'écrit. Alors c'est vrai, comme ça a été dit hier et comme ça peut être dit et comme j'ai pu le dire aussi, on préférait BNP. BNP, c'était la tranquillité, c'était une expression que vous aimez bien, c'est le couloir de nage, on sait où on va. Et bien là, sur Société Générale, c'est vrai que c'est un peu contrariant, c'est un peu à rebrousse-poil. Et effectivement, je pense que c'est à regarder. Et j'ai vu des objectifs de cours à 33 euros. Donc, on a véritablement un potentiel d'appréciation qui reste conséquent.
Donc, pourquoi pas Société Générale ? Benjamin, vous le suivez aussi, ce secteur financier et bancaire ? Alors, vous suivez davantage les petites et moyennes valeurs, mais il y a du grain à moudre aussi dans l'univers financier via les small et mid-cap ?
Oui, tout à fait. Dans l'univers des small et mid-cap, plutôt en Europe, il y a des belles valeurs. Donc, nous, on reste exposés à ce secteur-là, notamment à des vraies valeurs, on va dire, bancaires de taille moyenne. Je pense en particulier à BAVAG en Autriche ou à Bank Inter en Espagne. Et sinon, on essaye de trouver aussi, j'ai envie de dire, des valeurs un petit peu hybrides qui sont, entre guillemets, des banques, mais pas que. C'est-à-dire qui ont une activité aussi qui leur permet de pas simplement être une banque classique. Un exemple, on a une très forte conviction chez Edmond Rothschild AM sur Banca Pharma Factoring, une société italienne, BFF pour les intimes, qui est le spécialiste italien de l'affacturage. Pour notamment auprès des administrations publiques et du système hospitalier italien. C'est une très belle société. Depuis son IPO il y a quelques années, ils ont reversé à peu près 100% de leurs bénéfices aux actionnaires. Et c'est une société qui a finalement une histoire de croissance qui est assez intrinsèque, c'est-à-dire c'est le taux de pénétration de l'affacturage qui tend progressivement à augmenter en Italie, mais aussi partout en Europe. Et puis vous avez aussi un effet réglementaire qui leur est très favorable. Il y a une directive en Europe qui est en train d'être mise en place pour réduire les retards de paiement. Donc voilà, il y a un environnement qui est extrêmement favorable à cette société, qui a une licence bancaire, donc qui a aussi une activité bancaire un petit peu plus classique, mais qui a finalement aussi cette croissance structurelle qui nous paraît très, très intéressante.
Côté à Milan, on rappelle le nom de ce groupe, cette valeur
BFF.
BFF, voilà. BFF. Donc éligible au PEA, a priori, pour ceux qui veulent diversifier éventuellement. Exactement. L'idée de diversification. La semaine prochaine, on va rentrer dans le dur des publications. LVMH annoncera ses résultats mardi. On la sent comment cette saison pour Luxe et pour LVMH, par exemple, Franklin?
Un peu compliqué, parce que la base de comparaison est quand même très élevée. On a un premier trimestre dont on sait que ça n'est pas reparti dans tout ce qui était vin et spiritueux. En fait, beaucoup d'analystes avec qui on parle disent on n'aura pas l'effet waouh sur cette publication. On va avoir un premier trimestre qui devrait être plutôt confortable, mais sans... Ça devrait pas casser la baraque.
Compte tenu des valorisations, vous dites si ça casse pas la baraque, le marché risque de sanctionner pour le coup.
Oui, on l'a déjà vu. Hein. On a déjà vu qu'LVMH pouvait être très lourdement sanctionné un premier jour de publication. Après, ça repartait, mais c'est vrai qu'on a vu le titre décrocher de plus de 10% un jour de publication. Alors, on n'en est pas là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué d'annoncer des choses qui boostent la valeur mardi prochain.
Benjamin, dans les petites et moyennes, il y a des bons plays, comme on dit dans le marché.
Oui, alors, ce qui me marque en amont de cette saison de publication des valeurs du luxe, c'est la très grande divergence qu'on a dans les attentes, dans les taux de croissance qui sont attendus par les analystes au premier trimestre. En gros, ça va de moins 20%, notamment la marque Gucci, donc le groupe Kering, jusqu'à plus 15, plus 20. Je crois que les analystes doivent attendre plus 19 ou plus 20% pour la marque Moncler. Brunello Cucinelli, ça doit être aussi du plus 17 ou plus 18. Donc on a vraiment un grand écart entre certains acteurs qui vont être vraiment... pénalisé par un environnement qui n'est pas forcément très bon ou par un attrait de leur marque qui n'est pas forcément très fort, et puis d'autres acteurs qui vont continuer à marcher sur l'eau. Je parlais notamment de Brunello Cucinelli, de Moncler, qui nous semblent toujours être relativement des safe havens, on va dire, dans ce secteur-là.
Ouais, c'est intéressant pour tous ceux qui nous suivent, qui cherchent des idées de pépites comme ça. Vous nous en livrez au fur et à mesure, au fil des questions, effectivement, et avant la semaine prochaine, les premières publications dans le segment du luxe LVMH mardi soir. Le CAC 40, en attendant, est en repli. Ce soir, il perd 0,18%. Et sur la semaine, le CAC aura perdu 0,8%. On préserve quand même les 8000 en clôture ce soir. 8018 points pour l'indice CAC 40. Le CAC n'est pas très loin, toujours pas très loin de ses records historiques. Alors que le contexte géopolitique est quand même hyper tendu. L'Ukraine, évidemment. Le Proche et Moyen-Orient, ça se tend de plus en plus. Hein, le renseignement américain, c'est pas rien quand même. Le renseignement américain nous parle d'une possible attaque massive et directe de l'Iran sur Israël. C'est assez énorme. On verra. On est toujours dans le bruit. Mais le risque est là. Et pourtant, les actions sont toujours proches de leur plus haut. Le marché est-il insensible? C'est une question qu'on se pose ce soir. Les marchés sont-ils insensibles? Et plus profondément, les marchés actions manquent-ils d'âme?
L'âme, le siège de l'activité psychique et des états de conscience. Les dispositions intellectuelles, morales, affectives qui forment le moi profond.
C'est ça l'âme. Le marché actions a-t-il un moi profond et une âme? Franklin.
En ce qui me concerne, je serais assez catégorique. Non, le marché n'a pas d'âme. En revanche, il a des émotions, et heureusement, puisque ça crée cette diversité et cette volatilité. Mais non, typiquement, j'ai jamais vu avoir le marché avoir une âme.
Des états d'âme.
Et il est, voilà, des émotions, des états d'âme, mais je ne pense pas qu'il ait d'âme au sens propre du terme.
Le marché, ce ne sont que des maths, des chiffres et des algorithmes à vos yeux? Il y a de l'émotion dans le marché. S'il y a de l'émotion, c'est qu'il y a de l'humain derrière, et dans chaque humain réside une âme. En l'occurrence, on voit que, c'est vrai, les indices actions sont toujours proches de leur plus haut malgré le risque géopolitique. Mais sur d'autres classes d'actifs, on voit la peur qui monte. Enfin, je sais pas comment vous l'interprétez. L'or, par exemple, l'once d'or, ce soir, est à plus de 2 400 $. Le pétrole qui monte. Le VIX aussi, l'indice de volatilité qui remonte un petit peu. On a plus de 17 ce soir. Est-ce que là, on a des petits signaux de battement de cœur qui accélèrent dans le marché?
Oui, typiquement, le VIX est un indicateur assez fiable qui nous permet d'appréhender le niveau de volatilité du marché et donc de l'émotion des investisseurs. C'est vrai que c'est un moyen de réguler, de comprendre un petit peu les choses dans ce domaine.
Benjamin.
Alors je ne sais pas si les marchés ont une âme. En revanche, vu avec le prisme des petites et moyennes valeurs, je peux vous certifier que les marchés sont quand même assez ingrats depuis 18 ou 24 mois sur ce segment des petites et moyennes valeurs. En dépit de fondamentaux qui restent très bons, Force est de constater que les investisseurs, les marchés dans leur ensemble ont plutôt boudé cette classe d'actifs qui garde encore tout son attrait. Donc,
pour le coup, sans pitié le marché là, vis-à-vis des small and
medium. On espère un réveil. En tout cas, vu dans le rétroviseur, effectivement, sans pitié, mais la roue peut tourner.
Le marché a une main, la main invisible du marché, le marché a un ventre potentiel, ce qu'ont dans le ventre les différentes classes d'actifs dans le marché. Mais le marché a-t-il une âme? Cette question, elle reste ouverte. En tout cas, l'once d'or progresse. 2 409 $, on le rappelle ce soir, l'once. Justement, l'univers des petites et moyennes valeurs, vous sentez qu'on est sur le début d'un vrai réveil cette fois-ci ou pas? La collecte revient aussi sur les fonds small and mid. Est-ce que vous y croyez davantage, par exemple, que fin 2023, Benjamin?
C'est difficile à dire. On avait vu effectivement en fin d'année le retour de la collecte sur cette classe d'actifs. Les signaux, on va dire, sont un peu plus mitigés en ce début d'année. Donc c'est difficile vraiment de voir une tendance. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu un très fort vent de décollecte depuis maintenant 6 ans, donc en gros depuis 2018, sur cette classe d'actifs. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est un petit peu à l'os, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement aller plus bas en matière de décollecte. Mmh. Beaucoup d'allocataires sont sortis purement et simplement de cette classe d'actifs depuis déjà pas mal de temps. Donc, est-ce qu'on peut faire pire? Je ne pense pas. Maintenant, il faudra vraiment que l'appétit au risque revienne.
Gilles Santacreux nous appelle, je suis obligé de vous interrompre. Effectivement, Gilles, depuis boursiercoté.com, parce que dans cet univers des petites et moyennes valeurs, Gilles, d'un point de vue technique, vous en repérez une. Alors, pour le coup, c'est Trigano. Il y a peut-être là, par exemple, un potentiel. C'est déjà une belle valeur, d'ailleurs, Benjamin Trigano.
C'est
vous
une excellente valeur.
Effectivement, techniquement, encore du potentiel ou pas, ce Trigano, en l'occurrence, Gilles?
Oui, je vous en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Hein, Trigano fait partie de ces valeurs qui ont connu une phase de consolidation qui surperforme un petit peu ce qui se passe sur l'indice. Tant que l'on est au-dessus de 156 euros, bon là on est un petit peu en train d'attaquer cette valeur, eh bien on peut avoir un relais sur une impulsion que l'on a eue à la fin du mois de mars et qui pourrait nous amener justement vers une accélération du mouvement haussier en direction des 165 voire plus, donc pour une accélération. Le fait que cette valeur ait résisté alors que le contexte soit difficile prouve qu'il y a une force intrinsèque qui pourrait donc donner un relais à cette phase de hausse.
Pourquoi pas Trigano? Il y a une autre mid-cap là qui remonte un petit peu, en tout cas c'était le cas en séance, puis finalement en clôture la baisse. Forvia qui nous annonce une co-entreprise en Chine avec un acteur chinois. Alors autant nos constructeurs automobiles craignent la déferlante chinoise, les véhicules électriques chinois, autant nos équipementiers ont peut-être un coup à jouer en s'intégrant, créant, multipliant les co-entreprises avec les acteurs chinois de l'électrique. Est-ce que vous voyez sur les équipementiers auto un peu plus de potentiel se construire désormais, Franklin?
Moi, je suis assez réservé sur les équipementiers et on le voit dans leurs performances, que ce soit depuis le début de l'année, sur un an ou sur deux ans. Le seul, à mon avis, qui a grâce à mes yeux, c'est Michelin. En ce qui concerne les autres équipementiers, ils ont énormément à faire pour rattraper leur retard sur l'électrification des véhicules. Aujourd'hui, on est véritablement très très en retard, les valeurs sont mal aimées, leur performance depuis le début de l'année n'est pas bonne. Je continue malgré tout de privilégier encore l'automobile plutôt que les équipementiers.
D'accord. Benjamin, prudent sur l'auto ou...
Oui, on est globalement assez réservé sur le secteur. Le secteur finalement manque de momentum et encore sur le premier trimestre. Oui. Pas s'attendre à
Renault, c'est pas mal quand même, plus 40 depuis le début de l'année. Il y a des
Je parlais enfin là du marché du marché automobile mondial qui va être encore, je crois, les attentes c'est 0 ou moins 1% pour la construction, enfin le nombre de voitures produites dans le monde.
Merci messieurs. Benjamin Rousseau, gérant pour Edmond Rothschild Asset Management, Franklin Pichard pour Kipling Finance, étaient nos coéquipiers pour vous aider à vous forger une idée, le potentiel des marchés, les publications qui approchent la semaine prochaine. Aux États-Unis, les banques ont commencé à publier. Ah, c'est pas brillant. JP Morgan perd 4% en ce moment à Wall Street. On remercie aussi Gilles Santacreux depuis boursicoté.com. Et puis, on a d'autres valeurs qui reculent à Wall Street parce que la Chine, manifestement, envisage d'interdire l'usage des puces étrangères dans l'univers des télécommunications d'ici 2027 pour tout l'univers des télécommunications sur le territoire chinois. Du coup, Intel et AMD, les deux géants américains, plongent à Wall Street moins 3,5% chacune. D'après le Wall Street Journal, effectivement, la Chine compte interdire l'usage des puces étrangères dans l'univers des télécommunications d'ici à 3 ans. Dans un instant, good evening business, Guillaume Paul jusqu'à 19h. Bonne soirée, bon week-end.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.